il n'est pas normal d'avoir la boule au ventre le matin quand on se réveille, d'avoir peur des réactions d'un ou de ses collègues. Tout ça doit être pris en compte par les personnes qui ressentent un mal-être pour qu'elles osent parler des situations de harcèlement ou en tout cas de mal-être.
Là, en l'occurrence, c'était un dossier dans lequel le patron d'une agence de com avait mis en place, il était fan de pornographie, et donc il y avait cette ambiance extrêmement sexualisée au sein de son agence.
Aujourd'hui, il y a une zone de tolérance extrêmement accrue sur le fait de ne pas être d'accord avec la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Hein, donc il y a des propos, il y a un climat quand même politique. Donc moi, mon travail, c'est de rappeler le cadre, de rappeler la loi.
Il y avait des gages de nature sexuelle du type mimer une fellation sur un faux pénis en plastique. Il y avait des montages pornographiques pour présenter les nouvelles arrivées.
Il y a parfois aussi des agressions sexuelles, voire des viols, hein, en milieu professionnel. Je crois qu'on se cache un peu sur ces choses-là parce qu'elles sont encore taboues malgré MeToo et ça ne fait pas plaisir à entendre, mais ça arrive plus qu'on ne le croit.
La condamnation pour des faits de harcèlement moral en 2019, c'est 7 100 €. Donc c'est rien du tout. Pour une entreprise, c'est pas dissuasif. Vraiment, j'insiste là-dessus. Écoutez-vous et surtout, quand vous vous sentez mal au boulot, ne restez pas seul.
Dès l'annonce de ma grossesse, j'ai senti que mon chef changeait de comportement. Quand une promotion potentielle s'est présentée au sein de l'entreprise, j'ai voulu candidater au poste. Mon chef m'a annoncé la couleur, ce poste nécessite une grande disponibilité. Avec ton bébé, ce sera impossible. Ça a été dur à supporter, d'autant que j'ai toujours travaillé comme une malade. Syndrome de la bonne élève, j'ai voulu prouver que j'étais la meilleure, toujours dispo. Résultat, j'ai eu des soucis de santé. Ma sage-femme m'a arrêté à mon 7e mois de grossesse. À réception de mon arrêt, mon chef m'a appelé pour me dire que ça prouvait que je n'étais pas capable d'assurer avec ma maternité. J'ai beaucoup angoissé et je n'ai pas pu profiter sereinement de l'arrivée de mon bébé. Dès mon retour de mon congé mat, ils m'ont attribué un nouveau poste sur le papier aussi qualifié que le précédent. En réalité, j'étais mise au placard. J'ai fini par craquer. Ce témoignage d'Iris, 28 ans, consultante dans une entreprise de conseil, est l'un des nombreux témoignages qui émaillent le livre « Manuel contre le harcèlement au travail » écrit par Élise Fabing, avocate en droit du travail et en droit social, et sorti aux éditions Hachette en septembre. Près d'un salarié sur trois en France s'estime victime d'agissements hostiles, emails assassins, humiliations, turnover, insultes, violences sexistes et sexuelles. Le harcèlement au travail peut revêtir bien des formes, mais on peut le combattre ou le faire reconnaître. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec nos deux invités. Bonjour à vous.
Bonjour.
Bonjour.
Tout d'abord, l'avocate Élise Fabing, l'autrice du livre. Merci d'être avec nous aujourd'hui par téléphone.
C'est un grand plaisir.
Vous êtes avocate pro-salarié ?
C'est ça, tout à fait. C'est-à-dire que je ne défends que des salariés qui subissent des situations de violence au travail ou des problèmes dans l'exécution de leur contrat de travail. Donc, je suis engagée pour leur cause.
Et vous avez donc votre cabinet à Paris ?
C'est ça. Je suis l'associée du cabinet Alchemist Avocat qui est basé à Paris, mais qui opère partout en France.
Avec nous aussi dans cette émission, Léa Bagès. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes conseillère en prévention des violences sexistes et sexuelles et du harcèlement et directrice de Égalité à la Page. C'est un centre basé à Montpellier qui forme les entreprises à se prémunir de ces violences, c'est ça ?
Oui, tout à fait. C'est un cabinet de conseil et formation à destination des entreprises pour les accompagner et les former à traiter les situations de violences sexistes et sexuelles et de harcèlement au travail.
Merci à vous deux d'être ici, de parler avec nous de ce fléau. En cette journée internationale des droits des femmes, nous allons nous concentrer sur les violences qu'elles subissent au travail en majorité. Près d'une femme sur trois aura été confrontée au moins à une situation de harcèlement sexuel au cours de sa carrière, selon le baromètre IFOP 2018. L'un des chiffres relayés dans votre livre, Élise Fabing, vous y citez aussi une étape primordiale, pouvoir répondre à la question « Est-ce que je suis harcelée ?» Comment savoir si on est soi-même victime de harcèlement moral ?
Alors, moi, je dis toujours que c'est une histoire de ressenti. C'est-à-dire que c'est pas normal d'aller bosser avec la boule au ventre. Donc, à partir du moment où on se sent mal au travail, c'est qu'il y a un loup. Et c'est vrai que c'est une étape primordiale parce que En réalité, la plupart des victimes ont du mal à effectuer un diagnostic, à savoir si ce qui se passe est normal. Elles se remettent souvent beaucoup en question, surtout les femmes qui ont ce syndrome de la bonne élève et dont c'est souvent le premier caillou dans la chaussure quand elles viennent me voir au cabinet, et qui attendent d'ailleurs plus longtemps que les hommes. Ça, c'est mon expérience pratique, qui attendent plus longtemps que les hommes avant d'aller consulter une avocate, parce que justement, elles se sentent pas forcément légitimes dans les griefs qu'elles peuvent faire à leur employeur. Donc, c'est extrêmement important de savoir reconnaître ce qu'est un harcèlement moral, qui est en fait des agissements répétés qui vont avoir pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié, qui vont porter atteinte à ses droits, à sa dignité, altérer sa santé physique ou mentale ou compromettre son avenir professionnel. Donc, c'est vrai que le texte est flou. Et en fait, c'est la jurisprudence, donc les décisions de justice appliquées donc à des cas précis, qui c'est cette jurisprudence qui va permettre de voir ce qu'est un harcèlement moral. Donc, un harcèlement moral, ça peut être, par exemple, une mise au placard. Ça peut être trop de pression, énormément de boulot, une charge de travail insurmontable. Ça peut être aussi des humiliations. Ça peut être pas mal de choses. Donc, c'est vrai qu'il est important de savoir si ce que l'on vit est normal ou pas et de s'écouter. Vraiment, j'insiste là-dessus, écoutez-vous et surtout, quand vous vous sentez mal au boulot, ne restez pas seul.
Léa Bagès, une réaction sur ce sujet du harcèlement moral ?
Effectivement, Maître Fabing a très bien décrit les signaux et les ressentis des victimes qui vivent des situations de harcèlement moral. Encore une fois, il n'est pas normal d'avoir la boule au ventre le matin quand on se réveille, d'avoir peur des réactions d'un ou de ses collègues. Tout ça doit être pris en compte par les personnes qui ressentent un mal-être et pour qu'elles osent parler des situations de harcèlement ou en tout cas de mal-être. Parce que, comme l'a dit Maître Fabing, ce n'est pas évident de définir le harcèlement moral. Ça peut être plein de petites choses et c'est effectivement la jurisprudence qui va venir cibler quelle situation relève du harcèlement, qu'est-ce qui n'en relève pas. Ce qui est important, c'est d'en parler et de ne plus se lever le matin avec cette boule au ventre. Donc voilà.
Est-ce que ce sont les mêmes signaux que vous avez pu énumérer ici si on est victime de harcèlement sexuel ?
Tout à fait. Ce sont les mêmes signaux si on est victime de harcèlement sexuel. Alors, le harcèlement sexuel, on va le définir ensemble. Qu'est-ce que c'est ? Ce sont toutes ces petites situations, des comportements ou des propos à caractère sexuel au travail. Le harcèlement sexuel au travail n'a pas lieu d'être au travail comme à la maison, bien évidemment, mais ça n'a pas lieu d'être, le harcèlement sexuel. Donc, ça peut être, je vais donner quelques exemples peut-être pour étayer, des blagues répétées à caractère sexuel, des mimes. Certaines personnes me font part que dès qu'elles rentrent dans le bureau, des collègues miment ou font des bruitages à connotation sexuelle. Tout ça, ça peut être caractérisé comme du harcèlement sexuel, si c'est répétitif, si on y est exposé au quotidien. Et au-delà du caractère répétitif, j'attire votre attention aussi que quand bien même on a été la cible d'une promotion canapé une seule fois, ça constitue, la loi reconnaît que ça constitue une forme de pression assez grave pour caractériser du harcèlement sexuel, même si ce n'est pas répétitif.
Bien sûr, c'est toujours une histoire de ressenti. C'est vrai que deux salariés ne vont pas avoir la même tolérance personnelle à certaines ambiances grivoises, à des blagues sexistes ou à caractère sexuel. Donc, à partir du moment où on est mal à l'aise, on se sent pas bien, c'est là qu'il faut se dire qu'il y a peut-être quelque chose qui ne va pas.
Le harcèlement sexuel qui touche d'ailleurs une majorité de femmes.
Oui, alors j'ai pas de chiffres, mais personnellement, en 11 ans de carrière, j'ai jamais vu un homme souffrir de harcèlement sexuel.
À partir de quand on peut parler de harcèlement ?
À partir du moment où on se sent mal, effectivement, et s'agissant du harcèlement moral, il faut que les agissements soient répétés, c'est-à-dire qu'un fait isolé ne suffit pas pour caractériser un harcèlement moral, mais pour un harcèlement sexuel, c'est différent. le fait isolé peut suffire s'il est intimidant et de nature à obtenir une faveur de nature sexuelle.
Léa Bagès.
Alors, il va être important de différencier, comme l'a dit Maître Élise Fabing, le harcèlement moral du harcèlement sexuel. Néanmoins, j'ai l'habitude de dire aux personnes qui viennent parler, qui sont victimes ou qui s'estiment victimes de harcèlement, à partir du moment où il y a un doute, il n'y a plus de doute. Ce que vous vivez n'est pas normal et on va essayer ensemble d'avancer, de le qualifier, d'essayer de voir de quoi il retourne exactement.
J'ai découvert un terme, Élise Fabing, dans votre livre, notamment, hein, plus d'un terme, mais le terme de harcèlement sexuel d'ambiance. Qu'est-ce que c'est ?
Oui. Alors, le harcèlement sexuel d'ambiance, c'est quand au sein d'une entreprise, hein, j'ai eu un dossier comme ça il y a peu de temps, a été instaurée une ambiance à caractère sexuel. Là, en l'occurrence, c'était un dossier dans lequel le patron d'une agence de com avait mis en place, il était fan de pornographie, et donc il y avait cette ambiance extrêmement sexualisée au sein de son agence qui pouvait mettre extrêmement mal à l'aise ses salariés.
Ça se traduisait
en
comment ?
En l'occurrence, l'une de mes clientes. Alors, il y avait des gages de nature sexuelle du type mimer une fellation sur un faux pénis en plastique. Il y avait des montages pornographiques pour présenter les nouvelles arrivées qui étaient envoyées à toute l'équipe. Il y avait des projections de films pornographiques sur les temps de pause au sein de l'entreprise. Il y avait des remarques et des messages à caractère sexuel qui étaient envoyés par le patron. Hyper sympa.
Oh, c'est un exemple parmi d'autres, mais il est quand même assez costaud celui-là, je dirais.
Oui, il est assez costaud et heureusement c'est rare.
Tout ça n'a pas sa place en fait en milieu professionnel, sauf si vous, bien évidemment, vous travaillez dans un sex shop, et là encore, c'est très particulier comme environnement de travail. Néanmoins, au bureau, ça n'a pas sa place en fait, puisque ça peut créer un climat à caractère sexuel, un environnement qui va pouvoir avoir une incidence sur les personnes qui évoluent. Attention, les personnes qui évoluent, c'est aussi bien des femmes que des hommes, parce que ce climat, ce climat un peu grivois, comme ça a été appelé, peut mettre mal à l'aise et avoir une incidence sur le parcours professionnel et le bien-être au travail des personnes.
Le harcèlement touche tous les métiers ou est-ce qu'il y a des métiers plus touchés par le harcèlement que d'autres ?
J'ai l'habitude de dire que c'est partout, tout le temps. Je crois que c'est un leurre, que les employeurs se leurrent s'ils pensent qu'il n'y a pas de harcèlement ou de faits de violences sexistes ou sexuelles sur leur site. C'est une réalité, c'est pas une réalité qui est agréable à entendre et à accepter, mais c'est un fait. Est-ce qu'il y a maintenant des milieux professionnels plus ciblés que d'autres ? Les statistiques montrent qu'il y a des milieux qui sont plus à risque. Donc les milieux plus à risque, ce sont les milieux où il y a par exemple une plus grande précarité de l'emploi, une précarité qui touche généralement les femmes. C'est les milieux où il y a également peu de mixité, peu de mixité femmes-hommes, donc, et plus spécifiquement les milieux où il y a plus d'hommes que de femmes, comme par exemple le secteur du numérique. Pour donner un exemple, après à dire que ce secteur spécifiquement est plus ciblé, je ne peux pas, je n'ai pas des statistiques claires à vous montrer. Mais en tout cas, il y a ces indicateurs-là qui sont à prendre en compte, qui sont pour moi des éléments importants à donner aux employeurs aussi pour qu'ils prennent conscience des enjeux qu'ils ont derrière à prévenir ces actions-là.
Et ben, vous parlez du numérique justement à l'instant. Léa Bagès, le numérique apporte des outils supplémentaires aussi au harceleur ou à la harceleuse.
Oui, tout à fait. On parle beaucoup depuis le début de l'émission sur le harcèlement moral, le harcèlement sexuel. On a donné quelques exemples avec Maître Fabing de ce que ça pouvait être au quotidien, donc les petites remarques, les brimades, etc. Mais il ne faut pas oublier qu'avec aujourd'hui le monde dans lequel on vit, qui est hyper connecté, et aussi la grande mise en œuvre du télétravail, que ces violences, elles ne s'arrêtent pas, elles ne se limitent pas qu'au lieu fixe du travail, elles peuvent continuer au-delà, même en télétravail, sur les réseaux sociaux, sur les groupes WhatsApp, sur les liens Slack, Teams, ou autres réseaux sociaux professionnels.
Bien Slack Teams.
Ah, Slack Teams, oui. Ce sont des réseaux sociaux d'échange que les salariés ou même les gens dans leur vie privée utilisent, un peu comme le Messenger à l'époque de Facebook ou le WhatsApp sur son téléphone, mais des lieux où on peut travailler ensemble, communiquer, partager des fichiers, faire des visioconférences. Et tout ça, tout le harcèlement peut aussi avoir lieu sur Teams, donc les remarques, les humiliations dans des groupes publics Teams. Tu fais pas bien ton travail, toi t'es la préférée du chef. Vous voyez toutes ces petites remarques-là qu'on peut entendre à l'oral dans un open space ou dans un bureau, ben, elles se retrouvent là par écrit. Et il faut savoir que pour le législateur, c'est puni, et c'est même puni plus gravement, hein, puisque c'est une circonstance aggravante du harcèlement, le cyberharcèlement. Voilà.
Vous avez eu des exemples dans les entreprises dans lesquelles vous êtes allé
Oui, alors ça peut prendre plusieurs formes. Là, je vous citais l'exemple de quelqu'un qui, tout d'un coup, se retrouve isolé, puisque son chef d'équipe décide d'en faire le bouc émissaire sous prétexte qu'elle serait l'amie de la N+1 du chef d'équipe, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs, mais comme il ne peut pas lui voir sa N+1, ben, il s'en prend à elle, sa N-1, et il en fait le bouc émissaire en disant « oui, mais tu es favorisée, ah ben, toi tu as plus de congés que les autres, etc. » Ce qui est extrêmement, enfin faux, hein, puisque la personne a des preuves, elle dit je ne comprends pas, et aujourd'hui cette personne, bah, plus personne de son groupe ne lui parle, elle est extrêmement isolée, plus personne ne s'adresse à elle, elle est même moquée et méprisée de ses autres collègues qui croient leur N+1 quand il dit qu'elle est la chouchou, la favorite, etc. Et même une forme de violence, hein, d'isolement. Par exemple, dans cette structure, le manager a créé un deuxième groupe Teams, un deuxième groupe d'échange dans lequel il ne l'a pas impliqué. Donc, et là, on voit des mécaniques d'isolement à l'œuvre. Cette personne, elle est très isolée, puis elle se sent coupable, elle se dit qu'ai-je donc fait pour ne pas être dans ces réunions d'équipe-là numériques, hein. Et donc, il y a un deuxième canal de discussion qui s'est créé sans elle. Et ça, effectivement, ça impacte la personne. Il y a d'autres formes de violence. Là, c'était plutôt un exemple sur du harcèlement moral en ligne. Maintenant, on peut parler donc du harcèlement sexuel en ligne. Il peut prendre bien des formes. Alors, il peut aussi y avoir des propos, etc. Mais ce qu'on voit, et c'est assez surprenant, mais ce qu'on peut voir assez couramment quand même, c'est des personnes qui envoient des images à caractère sexuel à d'autres en ligne. Là aussi, alors soit c'est fait en message privé, soit c'est même parfois une forme de jeu entre collègues pour attirer l'attention sur les réseaux sociaux, j'ai une question, associée à sa question sur la mission, une image pornographique, pour être sûr que les autres collègues vont y porter attention. En tout cas, ce sont des comportements qui sont à proscrire, dans l'idéal, et qui vont engendrer quand même un certain mal-être au travail. Hein. Ouais.
Maître Élise Fabing, vous intervenez aussi et donnez des conseils sur des comptes Instagram, Balance ta startup et Balance ton agency. Est-ce que vous pouvez expliquer aux personnes qui ne connaîtraient pas ces comptes ce que c'est ?
Oui, alors ce sont des comptes Instagram anonymes. Alors pour Balance ton agency, il n'est plus anonyme, mais à la base, c'était comme cela. Qui vise à libérer la parole des salariés. Donc, c'est-à-dire que ces comptes vont collecter des témoignages anonymes de salariés en situation de souffrance au travail et vont les diffuser. Alors, c'est quelque chose qui existait déjà avec Glassdoor, mais la nouveauté avec ces comptes-là, c'est que c'est devenu viral, puisque je crois qu'elles sont à 200 000 abonnés sur Instagram. Et ça a permis, ces comptes-là, de faire prendre conscience du fléau du harcèlement en entreprise. Et l'idée de mon intervention sur ces comptes, c'était de faire de l'accès au droit du travail, parce que je dis toujours que le savoir, c'est le pouvoir. Et c'est vrai que je suis toujours frappée par le fait que les salariés ne soient absolument pas au courant de leurs droits, ne savent pas comment se défendre, n'ont pas de réflexe pour constituer un dossier au moins précontentieux, même si on n'y va pas, mais pour se protéger même en interne et pouvoir trouver une solution RH. Et donc, l'idée de ces lives, c'était vraiment d'aider les salariés. C'est vrai que quand on a commencé, je me suis dit qu'il y aurait personne, que ça ennuierait tout le monde, ces lives. Et finalement, ça a eu beaucoup de succès. Et puis, ensuite, j'ai écrit le livre parce qu'on n'arrêtait pas de me demander où sont écrits tous tes conseils. Et donc, je me suis dit que c'était le bon moment pour écrire un livre, un guide pratique destiné aux salariés pour leur donner tous ces conseils d'urgence et les sensibiliser à ce qui peut malheureusement parfois se passer au cours d'une carrière.
C'est intéressant ce que vous dites, c'est que ça vous tombe d'un coup dessus en fait, ou alors ça arrive petit à petit. En tout cas, on s'en rend compte peut-être d'un coup.
Oui, je crois qu'il y a une prise de conscience qui peut être assez soudaine. Alors parfois, il y en a qui subissent des situations violentes au travail depuis longtemps, mais qui n'arrivent pas à mettre des mots dessus et qui sont dans une sorte de déni. Oui, ça, la prise de conscience peut être extrêmement, extrêmement rapide et brutale. Donc c'est vrai que je pense que c'est hyper important que tout le monde soit informé de ça. Et d'ailleurs, j'ai fait des séances, des interventions là dans des écoles supérieures, au CELSA et à l'ESMOD, avec Olivia Copin, pour prévenir le harcèlement en dispensant des conseils aux futurs salariés, les étudiants de dernière année, pour que ils soient armés en cas de situation toxique au travail.
Eh ben justement, parlons de ce qu'on peut faire contre ça. Alors admettons, on a pu identifier, on est bien soi-même victime de harcèlement au travail. Qu'est-ce qu'on peut faire contre ça?
Alors moi, mon conseil numéro un, si les auditeurs et auditrices doivent retenir une chose, c'est qu'il faut susciter les cris. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de situations de harcèlement moral ou sexuel qui sont extrêmement orales. Et donc, susciter les cris, alors c'est pas forcément écrire de façon frontale à son agresseur, parce que ça peut être très intimidant pour une victime, mais ça va être, pareil. Je prends un exemple d'une de mes clientes dont le patron s'amusait à dégrafer son soutien-gorge dans l'ascenseur. Il y a une fois, il l'a fait en présence d'une de ses collègues, donc elle lui a envoyé un texto après en disant « Je suis dégoûtée, il m'a encore dégrafé le soutien-gorge, ce gros porc ». Et sa collègue lui a répondu « J'ai vu, je suis désolée, si je peux faire quoi que ce soit, n'hésite pas. » C'est une preuve, parce que devant un conseil de prud'homme, en fait, il faut des éléments de présomption de preuve, c'est-à-dire un commencement de preuve. Donc, il faut en avoir le plus possible, parce que le juge va regarder un peu le faisceau d'indices de harcèlement, et ce sera ensuite à l'entreprise de prouver qu'il n'y avait pas harcèlement. Donc, la charge de la preuve est beaucoup plus légère au civil devant nos conseils de prud'homme que au pénal. Et l'élément intentionnel n'est pas nécessaire non plus, parce que on a aussi en entreprise ce qu'on appelle du harcèlement systémique, qui est lié au mode d'organisation en lui-même de l'entreprise. Et je pense aux entreprises qui mettent beaucoup de pression aux salariés, qui imposent des heures facturables complètement délirantes, notamment dans le domaine du conseil. Et ça, c'est un harcèlement systémique. Il n'y a même pas d'élément intentionnel de harceler un salarié. Là, c'est vrai que il va être extrêmement intéressant d'avoir un maximum de preuves. Donc, ça va être aussi des alertes qu'on va pouvoir lancer. Donc, alerter en interne potentiellement les RH s'il y en a, ou le référent harcèlement sexuel quand il y en a un, ou un élu CSE. Ça va être aussi alerté en externe, l'inspecteur du travail, le défenseur des droits. Et puis, depuis peu, il est possible aussi de produire des enregistrements devant le conseil de prud'homme. Donc, à vos enregistrements. Et il y a des applications qui existent, qui permettent d'enregistrer de façon rapide, en appuyant juste sur un bouton, des conversations. Parce que c'est vrai que parfois, les brimades, les humiliations, les patrons sont pas stupides, ils évitent de les écrire, hein. Et puis récolter le témoignage d'autres collègues via WhatsApp, Messenger, Slack, peu importe en fait le mode de communication, c'est des trucs dont je vais me servir.
Et donc susciter les cris, c'est demander et essayer de provoquer des preuves par écrit de la part de collègues ou autres, ce genre de choses,
voilà.
Ou de la personne concernée directement.
Aussi, tout. Alors de la personne concernée, c'est souvent extrêmement difficile. Mais par exemple, dans des cas de harcèlement sexuel, une salariée peut écrire à son harceleur « Là, c'était le texto de trop, j'en peux plus, je te demande d'arrêter. » Ça, on va s'en servir, bien sûr.
Léa Bagès, est-ce que les entreprises jouent correctement leur rôle de garde-fou ?
Alors, c'est difficile de répondre à cette question, pour être tout à fait franche, parce qu'il y a les entreprises qui, oui, sont bonnes élèves en termes de garde-fous, parce que elles déploient des actions de prévention régulièrement, parce que elles sont sensibilisées à ces questions et ont à cœur de les traiter. Et puis, il y en a d'autres où c'est un peu plus opaque. En tout cas, il faut rappeler que la loi demande, hein, et exige même des employeurs, donc des entreprises, de prévenir, hein, avec une obligation de prévention et de sécurité. Hein. L'employeur, il a la responsabilité d'assurer la sécurité de tous ses collaborateurs sur un site, et ça passe justement par prévenir le harcèlement sexuel ou harcèlement moral et accompagner les personnes qui en seraient victimes ou témoins.
Comment une employeuse ou un employeur peut se prémunir justement de ce type de harcèlement dans son entreprise ?
Alors, il y a plusieurs actions qu'il peut mettre en place. La loi, déjà, lui indique de nommer un référent harcèlement et de mettre en place des formations pour que ces personnes puissent accueillir et être en mesure d'accompagner les personnes qui en seraient victimes ou témoins. Il y a la prévention au travers des formations et des sensibilisations. Alors, ça peut passer par des actions de formation sur site, en e-learning, mais aussi des actions de sensibilisation plus d'ordre communication avec des affiches, l'affichage de numéros, des lignes d'écoute, etc. Ça peut prendre plein de façons. Et puis, encore une fois, la prévention ne suffit pas. Hein, c'est pas parce qu'on prévient que ça n'arrive pas. D'ailleurs, je pense même qu'il faut être très clair là-dessus. Généralement, quand on intervient pour faire des actions de prévention et de sensibilisation, derrière, l'employeur se retrouve avec 2, 3, 4 récits. Bon, ça dépend bien sûr de la taille de l'entreprise, mais des récits en tout cas de personnes qui ont eu un déclic ou qui là se disent « Ah ok, on a une action de sensibilisation, c'est peut-être que mon employeur est capable d'entendre ce que moi je vis au travail ». Donc c'est aussi un message très fort que les employeurs envoient lorsqu'ils font des actions de sensibilisation, puisque derrière, ça va libérer la parole. Alors effectivement, il va y avoir une charge de travail supplémentaire d'un point de vue RH, hein, parce qu'il va falloir traiter ces situations. On ne peut plus mettre un mouchoir dessus.
Ouais, l'impression peut-être... ça doit être une impression désagréable en tant qu'employeur de découvrir qu'il y a effectivement différentes situations et alertes qui interviennent. C'est quelque chose aussi à prendre en compte ?
Oui. Oui, oui, bien évidemment, c'est pas quelque chose d'agréable de se dire « Ah bah tiens, j'ai 5 signalements, oh là là, qu'est-ce que je n'ai pas fait ?» Encore une fois, il faut pas inverser la culpabilité. Hein. La culpabilité, la faute, elle est surtout sur les personnes qui ont des agissements problématiques et qui ne sont pas conformes à ce qu'on attend d'un salarié ou d'un collaborateur sur site. Encore une fois, c'est un lieu comme un autre avec un règlement intérieur, une entreprise. Donc si un collaborateur ne respecte pas le règlement intérieur, bien, il peut s'exposer à des sanctions.
Léa Bagès, vous proposez dans votre centre Égalité à la page à Montpellier des formations là-dessus. Comment ça se passe, une formation contre le harcèlement ?
Ça se passe en plusieurs temps. Ça va dépendre aussi du groupe, mais on reçoit pas mal de managers et de RH sur lesquels d'abord on va passer une matinée autour de qu'est-ce que c'est que le harcèlement, qu'est-ce que sont les violences sexistes et sexuelles, parce qu'au-delà du harcèlement, il y a aussi les agissements sexistes, il y a les outrages, il y a parfois aussi des agressions sexuelles, voire des viols, hein, en milieu professionnel. Je crois qu'on se cache un peu sur ces choses-là parce qu'elles sont encore taboues malgré MeToo et ça fait pas plaisir à entendre, mais ça arrive plus qu'on ne le croit. Donc on fait le point déjà. Qu'est-ce que la loi dit? Quelles sont les obligations employeurs? Et puis, souvent l'après-midi, quand on fait des journées entières, on va aller sur comment on reçoit la parole des victimes, qu'est-ce qu'on leur dit. Et qu'est-ce qu'on fait ? Beaucoup de personnes n'osent pas parler parce qu'elles ont peur des représailles. Or, encore une fois, la loi protège les personnes qui signalent. Mais c'est pas parce que la loi protège que l'employeur, lui, va suivre la loi. Néanmoins, les personnes que j'ai en formation ont déjà un niveau de sensibilité sur ces sujets avancé. Et ce sont des employeurs qui mettent les moyens justement parce qu'ils ne veulent pas ou ils ne veulent plus que ça se reproduise dans leur structure. C'est des structures où il y a déjà eu des prises de conscience avec des bien évidemment des éléments douloureux. Douloureux d'un point de vue employeur, mais aussi d'un point de vue collaborateur, parce que ça a une incidence. Et beaucoup de gens sont au courant quand il y a du harcèlement. Ce ne sont jamais des actes isolés. Les gens le savent, c'est juste qu'ils ont peur et qu'ils n'en parlent pas.
Il y a une mentalité à changer aussi.
Oui, il y a une mentalité, à changer, à faire évoluer. Bon là, je vous ai dressé un peu portrait, le portrait d'une intervention idéale dans une entreprise, parce qu'en réalité, il y a aussi parfois, même si l'employeur il a envie de se donner les moyens, parfois on a des collaborateurs dans les actions de formation qui eux n'ont pas envie que ça change. Pour eux, il n'y a pas de problème, ils voient pas, et c'est très délicat parce que aujourd'hui, il y a une zone de une tolérance extrêmement accrue sur le fait de ne pas être d'accord avec la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Donc, il y a des propos, il y a un climat quand même politique qui parfois n'aide pas du tout en intervention. Donc, moi, mon travail, c'est de rappeler le cadre, de rappeler la loi, de dire aussi que l'employeur, lui, il se positionne du côté de la loi et de ses obligations. Et bien évidemment, quand on a des collaborateurs qui sont très problématiques parce qu'ils ne sont pas d'accord avec ça, mon travail, c'est aussi de dire à l'employeur, attention, le discours et la position sur laquelle vous vous tenez n'est pas celle de tous vos collaborateurs et donc vous aurez probablement des freins qui vont empêcher la réalisation de vos objectifs en termes de prévention de violences sexistes et sexuelles.
Alors, vous avez rencontré pas mal d'exemples, vous en avez donné quelques-uns ici. Comment ça se passe dans le monde du travail aujourd'hui quand on veut se battre contre le harcèlement qu'on subit ou que d'autres subissent ? Est-ce qu'on peut être lanceur d'alerte aussi ?
Oui, on peut être lanceur d'alerte. Alors, il faut savoir qu'il y a une protection du salarié. Alors, le mécanisme de lanceur d'alerte est extrêmement compliqué encore, mais quand on dénonce des faits de harcèlement moral ou sexuel, on ne peut pas être licencié sous peine de nullité du licenciement, donc ce qui est une sanction assez grave pour l'employeur et un peu contraignante quand même en termes financiers. Donc on n'a pas le droit dans les textes d'être licencié en raison de dénonciation de faits de harcèlement, voilà, ou de discrimination d'ailleurs. Mais souvent une discrimination est harcelante.
Il vaut mieux contacter un avocat pour ne pas se perdre là-dedans.
Non ? Oui, c'est vrai que l'avocat est évidemment d'une grande aide en amont pour justement constituer le dossier, l'orienter, avoir une stratégie en tête. Et puis souvent, malheureusement, il n'y a pas forcément de solution RH parce qu'il y a un trop gros traumatisme du côté de la victime. Alors ça arrive quand les entreprises réagissent extrêmement bien aux dénonciations de faits de harcèlement, mais dans pas mal de cas, l'entreprise ne sait pas gérer cela et la victime a l'impression que son agresseur a été couvert. Et dans ce cadre-là, c'est très compliqué de reprendre le boulot. Donc, on part ensuite sur une négociation de départ parce qu'il n'y a pas de raison de ne pas être indemnisé lorsqu'on doit partir parce qu'on est victime de harcèlement. C'est déjà pas juste, donc ça s'indemnise nécessairement.
Quelles sont les sanctions et peines possibles pour les harceleurs ?
Il faut distinguer les sanctions sur le plan pénal et sur le plan disciplinaire. Sur le plan disciplinaire, l'employeur, lui, il peut aller jusqu'à la suspension ou le renvoi, le licenciement pour faute. On peut aller jusque-là. Il y a la mise à pied également, qui est assez courante. Néanmoins, le licenciement est de plus en plus... c'est un recours auquel les employeurs ont le plus en plus accès. Enfin, en tout cas, ils osent y aller là où avant ils avaient des freins parce qu'ils savent que les personnes vont recommencer tant qu'elles ne seront pas sanctionnées vraiment. Après, sur le plan pénal, Maître Fabing sera plus à même, mais on peut aller jusqu'à effectivement des amendes et voire des peines. Sauf que les peines, c'est de plus en plus rare, mais des amendes, oui.
Alors. Au civil, en fait, on va attaquer l'entreprise, la personne morale, parce que l'employeur a une obligation de protéger la santé et la sécurité de ses salariés.
Civil, c'est le prud'homme, donc, les prud'hommes.
Ouais, le prud'homme. Au pénal, on peut attaquer une entreprise ou une personne physique. Alors, c'est vrai que souvent, on va au prud'homme parce que, vous l'avez compris, la charge de la preuve est plus légère qu'au pénal. Et puis, le processus est plus court et moins aléatoire. Parfois, je fais les deux actions, une action prud'homale et une action pénale. Les sanctions sont malheureusement beaucoup trop faibles. La condamnation pour des faits de harcèlement moral en 2019, c'est 7 100 €. Donc, c'est rien du tout. Pour une entreprise, c'est pas dissuasif. Donc, c'est vraiment pas assez. Donc, je milite pour qu'on mette en place des peines minimums pour les entreprises reconnues coupables de harcèlement moral. Je viens d'ailleurs de publier une tribune avec mes propositions pour les candidats à l'élection présidentielle pour remettre un peu le sujet de la souffrance au travail au cœur du débat politique, parce que c'est vrai qu'on en parle trop peu alors que ça concerne énormément de personnes et je pense qu'en plus le bilan en termes de coûts humains et financiers est catastrophique pour les entreprises et pour les salariés. Il faut vraiment travailler là-dessus.
Ouais, c'est un sujet complètement évité pour l'instant dans la campagne.
Bien sûr, personne n'en parle alors que cela concerne énormément de monde. Et c'est vrai que les condamnations sont faibles, d'autant que depuis le barème Macron, en cas de rupture du contrat de travail, l'indemnisation est fixée en fonction de l'ancienneté. Alors le barème ne s'applique pas quand il y a des cas de harcèlement, mais néanmoins, c'est vrai que quelqu'un qui a une très faible ancienneté, ça va être hyper compliqué d'obtenir réparation du préjudice intégral. Et il n'est pas logique qu'on fixe l'ancienneté, qu'on fixe comme critère de préjudice l'ancienneté, parce que parfois on a beaucoup plus de préjudice lorsqu'on a subi un licenciement hyper trash et qu'on a un an d'ancienneté mais 56 ans que quand on a 30 ans, que ça faisait 10 ans qu'on était dans la même boîte et qu'on a retrouvé un boulot. Donc, il est important de traiter ces sujets et de trouver des solutions pour que notre justice sociale fonctionne mieux et protège mieux les victimes.
Et si l'employeur n'est pas harceleur, est-ce qu'il risque quelque chose ? Un employeur risque quelque chose s'il y a des faits de harcèlement dans son entreprise ?
Effectivement, l'employeur, il peut être tenu responsable s'il n'a pas mis fin aux agissements dont il avait connaissance. Et à partir du moment où un employeur du secteur privé reçoit un signalement sur son bureau, quand je dis employeur, c'est service RH généralement, et qu'il ne fait rien, il a 2 mois pour agir. S'il n'agit pas dans ces 2 mois-là, après il sera trop tard parce qu'il y a une forme de limite dans laquelle on peut traiter les sujets lorsqu'on en a connaissance. Donc il faut aller quand même relativement vite et puis il ne faut pas se dire ah bah tiens je laisse courir pendant 2 mois et comme après bah la loi dit que je ne peux plus sanctionner des faits dont j'ai eu connaissance qui seraient antérieurs à 2 mois, eh bien je suis tranquille. Non, pas du tout. Il y en a qui jouent la montre, mais effectivement, il pourrait y avoir des poursuites contre l'employeur.
Merci à vous deux de nous avoir montré une partie de la face cachée du monde du travail. Je rappelle que près d'un salarié sur 3 en France s'estime victime d'agissements hostiles. C'est donc un vrai sujet de société. Élise Fabing, je rappelle que vous êtes l'autrice du manuel « Contre le harcèlement au travail » aux éditions Hachette. Facile à lire, avec plein de conseils et même des tests ou des exercices, des tests pour trouver la zone grise notamment. C'est cette zone un peu floue entre harcèlement et pas harcèlement, c'est ça ?
C'est ça.
Eléa Bagès, donc vous êtes conseillère en prévention des violences sexistes et sexuelles et du harcèlement et directrice de Égalité à la page, centre de formation en entreprise contre les violences sexistes et sexuelles et le harcèlement à Montpellier. Vous serez toutes les deux à la halle Tropisme de Montpellier mardi 29 mars à 14h pour un atelier de conseil contre les violences sexistes et sexuelles au travail avec le réseau VSST des professionnels animé par le centre d'information sur les droits des femmes et des familles de l'Hérault. Quelques rendez-vous en ce mardi 8 mars. Le CIDFF de Montpellier organise des rencontres pour mettre en avant l'entrepreneuriat féminin. Un atelier « Les métiers anti-lingenres » se tient cet après-midi à la Maison de l'Orientation à Antigone. Dans le cadre de la grève féministe, une marche solidaire est aussi prévue au départ de la place Zeus à Montpellier à 15h40. Tiens, une petite question bonus à nos invités. Savez-vous pourquoi cet horaire précis ?
Oui, 15h40, c'est l'heure à partir de laquelle les femmes ne sont plus payées pour le travail qu'elles font. Voilà, donc c'est assez symbolique.
C'est ça, effectivement, en raison de la moyenne d'écart salarial avec les hommes. Merci à vous deux d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. Très bonne journée internationale des droits des femmes à toutes et à tous.
Bonne journée à vous également.
Merci.